Découverte. Aviva Belef en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités. Et c'est tout de suite. Bonjour et shalom à tous, et bien sûr, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Découverte. Alors, de quoi allons-nous parler? Bien sûr, comme d'habitude, de sujets divers et variés. Nous irons en France avec le démarrage du lancement d'une campagne contre l'antisémitisme par le collectif Nous Vivrons. La Jordanie a parachuté des vivres avec la France sur les côtes de Gaza, et figurez-vous que le Hamas s'en est emparé. Pas cher et proche, les Israéliens ont trouvé l'endroit qui ressemble le plus à la Turquie, où ils adorent faire du tourisme. L'exclusion de la Turquie de la carte touristique des Israéliens a donc conduit un certain nombre d'entre eux à rechercher l'alternative la plus proche possible. C'était la partie turque de l'île de Chypre. Arriver ici est un vol court, depuis Israël en tout cas. Les prix sont plus bas, il y a des casinos et vous pouvez même subir des grèves de cheveux. C'est pas moi qui le dis, mais ce sont des Israéliens. Une philanthrope juive, Madame Ruth Gottesman, a donné $1 milliard à l'université de médecine Albert Einstein. Ruth Gottesman, qui fait partie d'une importante famille juive qui a fait des dons à de nombreuses organisations, dont l'université Yeshiva, soutient les étudiants de l'ancienne école de médecine, donc Yeshiva University. Au Brésil, des centaines de milliers de personnes ont manifesté en soutien, cette fois à Israël. Premier jour de printemps à Morey, il s'agit d'une œuvre impressionniste qui avait beau être sur la liste des biens spoliés, elle a malgré tout été acquise en 2008 par un galériste suisse chez Christie's. Aujourd'hui, l'arrière-arrière-petit-fils de l'acquéreur Alfred cherche à la récupérer, mais les négociations patinent et parmi les descendants, on trouve l'acteur français Vincent Lindon. Question: à qui va-t-on remettre le César du pays européen le plus hostile à Israël avant l'Irlande? Donc probablement le pays européen le plus hostile à Israël. Eh bien, je laisse planer encore quelques minutes de suspense. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a déclenché une renaissance juive. Où? Eh bien, en Arménie. Scandaleux, des joueuses irlandaises tournent dos pendant l'hymne israélien. Et en juin 1940, Aristides de Sousa Mendes, alors consul du Portugal à Bordeaux, désobéit à son pays et sauve plusieurs dizaines de milliers de personnes juives et non-juives en leur délivrant des visas pour le Portugal.
הלב נלחם בדאגות, כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. נחלתנו, תיבול כעת רוחנו, מסביב ברזל של חרבות. ויונה תפרוס כנפיים, התקווה בת שנות אלפיים, עוד נצא לשיר ברחובות. כי
כי עם הנצח לעולם לא מפחד אפילו כשקשה לראות כולם ביחד אף אחד פה לא בודד שישרפו המלחמות עם ישראל חי אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים עם ישראל חי
Voilà, c'était donc le chanteur Eyal Golan avec cette chanson « Am Israël Chai ». Le collectif « Nous vivrons » a lancé mardi en France une campagne pour lutter contre l'antisémitisme, reprenant volontairement les codes-graphies d'une campagne grotesque de la France insoumise pour s'inscrire sur les listes électorales. Les affiches du collectif présentent des stéréotypes antisémites en y répondant de manière factuelle. Ainsi, on peut lire « Les Juifs sont riches ». Et vous, point d'interrogation. Avec comme commentaire, 15% des Juifs français vivent sous le seuil de pauvreté, comme 14,5% de tous les Français. Ou encore, les Juifs contrôlent le monde. Et vous? Et puis, il y a un seul État juif et il ne fait pas partie ni du G8 ni du G20. Ou encore, les Juifs sont partout. Et vous? Accompagné par le chiffre, il y a 400 000 Juifs en France sur 68 millions d'habitants. Sur son compte X, le collectif décrit sa campagne. Alors que l'importation du conflit au Proche-Orient a entraîné une augmentation de 1000% des actes antisémites en France en 2023, le collectif Nous vivrons lance une campagne de déconstruction des stéréotypes antisémites les plus populaires, ceux-là même qui, banalisés, s'installent dans les consciences et servent de terreau à la haine des Juifs. On dit que les Juifs sont riches, partout, contrôlent le monde. Voici les poncifs exposés dans cette campagne qui ambitionne de pointer du doigt leur absurdité par des faits. À quelques jours de la Journée nationale de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, nous appelons toutes les associations antiracistes à lutter activement contre l'antisémitisme. Nous appelons également les partis politiques à une grande fermeté face à ceux qui jouent avec ces clichés à des fins électoralistes. La haine de l'autre ne peut pas être un argumentaire de campagne. Le collectif précise que pour l'instant, les affiches seront placardées, notamment à proximité des QG de LFI et du Rassemblement national, mais aussi des universités, bastions de l'antisémitisme contemporain. Fin de citation. C'est donc ce même collectif Nous vivrons qui avait empêché les députés de la France insoumise de mener une cérémonie aux Veldiv le jour de la manifestation contre l'antisémitisme à laquelle ils avaient décidé de ne pas participer. C'est lui aussi qui avait organisé un comité d'accueil entre guillemets à Jean-Luc Mélenchon qui rentrait du Liban au mois de janvier en lui lançant « Insoumis, le Hamas vous dit merci ». Fin de citation. La Jordanie, avec l'aide de la France, a parachuté des vivres sur les côtes de Gaza. Selon l'annonce de l'armée jordanienne, lors d'une opération à laquelle ont participé 4 avions de transport C-130 Hercule, dont un appartenant à l'armée française, des colis d'aide ont été largués dans 11 centres différents à travers la bande de Gaza, du nord au sud. Il s'agit de la plus importante livraison par les airs d'aide humanitaire fournie par la Jordanie, qui a expliqué qu'elle espérait ainsi atteindre directement les populations civiles. Une partie des colis sont tombés dans la mer et de nombreux Gazaouis se sont bousculés dans l'eau pour espérer les récupérer. Certains paquets ont cependant sombré dans les fonds marins. Cependant, même lorsque les colis atteignaient le sol et ne tombaient pas dans la mer, le Hamas s'en emparait, du moins à Rafiah, le dernier bastion de l'organisation terroriste dans la bande de Gaza. Selon les témoignages venus de la ville du sud de la bande de Gaza, des membres du Hamas ont ouvert le feu lorsque les colis sont tombés pour prendre le contrôle de l'aide. Et selon l'armée jordanienne, l'aide qui a été larguée comprenait entre autres des repas préparés à haute valeur nutritionnelle pour soulager les souffrances des habitants de la bande de Gaza en raison des conditions très difficiles auxquelles ils sont exposés pendant la guerre. L'aide comprenait également de la farine, du riz, des dattes, du lait pour bébé et des couches.
היא התחתנה והיא מאושרת למרות שבעלה היה מין שד ופרד כל הזמן מצוברח קבוע והוא אפילו לא אומר מדוע שלוש שנים שהיא מקבלת מגבר זר מתחת דלת מכתבי שירה אליה הם מאירים את אלוניה זה כותב לך ילדונת גלים היא שולח זר פרחים סגול כשהאביב פורח מבת שני בכל נובמבר בלי ברכה בלי שם או רמז שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט לילות שלמים שהיא לא נרדמת עליו בהקיץ היא חולמת ובטח גבר עם לב רומנטי נשמה טובה וחיוך סימפטי שלוש שנים הוא סובל בשקט כן לפעמים היא כמעט צועקת ומה אם בעלה יודע היא מסתירה את מי זה כותב לך ילדונת גלים היא שולח זה פרחים סגול כשהאביב פורח מבת שהיא בכל נובמבר ברכה בלי שם או רמז שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט שהיא בכל נובמבר בלי ברכה, בלי שם או רמז שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט צ'רלה
C'était le chanteur David Broza. Pas cher et proche, les Israéliens ont trouvé l'endroit qui ressemble le plus à la Turquie où ils adorent faire du tourisme. En effet, des milliers d'Israéliens habitués à prendre l'avion pour Istanbul, à faire du shopping dans les centres commerciaux et les bazars, à passer du temps dans les clubs et les restaurants, ont donc récemment décidé de trouver le substitut le plus proche de la Turquie, à savoir la partie turque de l'île de Chypre. Nous nous y sentons comme à Istanbul, une attitude agréable, de la bonne nourriture, et il y a un excellent casino et des magasins bon marché. C'est ce qu'a expliqué le dénommé Avi. Et bien sûr, il n'y a pas de haine. Les habitants nous respectent beaucoup. Il n'y a pas de manifestation contre Israël ici. Ils veulent vivre du tourisme et peu importe d'où vient le touriste. Ils sont en concurrence avec la partie grecque de l'île de Chypre et faisons tout pour que le touriste s'amuse et garde l'argent avec lui. Ruti, son mari Hagai et quelques amis sont également revenus il y a quelques jours de vacances à la Chypre turque, au nord de l'île, dont la plus grande ville est Nicosie, et ont apprécié chaque instant. C'est un endroit moins cher qu'Istanbul et j'ai même reçu une offre pour une greffe de cheveux à un prix très bas par rapport à Israël, a expliqué Hagai. Je me sentais comme chez moi là-bas, j'y retournerai pour 4 jours de vacances supplémentaires. Il n'y a pas de peur, il y a la sécurité, il y a des policiers dans les rues et une ambiance vraiment chaleureuse et sympathique envers les touristes en général et les Israéliens en particulier. Les prix pour des vacances à Chypre, donc la partie turque comprenant un vol et un hôtel 5 étoiles pour 3 nuits, vont de $480 à $580 selon la qualité de l'hôtel et son prestige. L'avantage est que le vol vers Chypre comprend les transferts et qu'il faut 1h30 pour rejoindre la partie turque dans le nord de l'île, a expliqué aussi. Dans le même temps, il convient de noter que ceux qui passent du côté grec vers le côté turc risquent d'être arrêtés. Il n'y a aucun problème avec les touristes israéliens voyageant à Chypre turc, mais dès qu'ils séjournent dans des hôtels là-bas et qu'il y a un tampon sur leur passeport, ils peuvent avoir des ennuis sur le chemin du retour vers la partie grecque de l'île, a expliqué un guide israélien. Il n'y a pas si longtemps, une famille entière a été arrêtée à cause d'un tel cas dans la partie turque, donc de l'île de Chypre. Sachez qu'une philanthrope juive donne $1 milliard à l'université de médecine Albert Einstein. Ruth Gottesman, c'est son nom, 93 ans, veuve du protégé de Warren Buffett, David Gottesman, a fait donc don $1 milliard à l'Albert Einstein College of Medicine pour couvrir les frais de scolarité de tous les étudiants. C'est ce qu'a en tout cas rapporté le New York Times. L'école du Bronx était autrefois la faculté de médecine de l'université Yeshiva, une autre institution que la famille Gottesman a également soutenue. Le campus de Washington Heights de l'université abrite le bâtiment de la bibliothèque Mendel Gottesman. Nous félicitons la famille Gottesman pour son leadership visionnaire qui a permis de faire progresser de manière significative la mission fondatrice d'Einstein consistant à élargir l'accès de tous les étudiants à une formation médicale de haut niveau. C'est ce qu'a déclaré M. Harry Berman, rabbin et président de l'université Yeshiva. Pendant des décennies, Einstein a généré des recherches révolutionnaires et des médecins de classe mondiale. Il s'agit d'un jour monumental pour notre faculté de médecine affiliée et pour une éducation médicale fondée sur des valeurs, a-t-il ajouté. Sachez que la bibliothèque d'Einstein, la bibliothèque Samuel Gottesman, est fermée le Shabbat. Einstein a obtenu le droit de conférer ses propres diplômes d'études supérieures et de médecine en 2019. Il est désormais affilié au système de santé de Montefiore et à l'université Yeshiva. Ancienne professeure à Einstein, le don de Ruth Gottesman est l'un des plus importants jamais faits à un établissement d'enseignement américain et très probablement le plus important à une faculté de médecine, selon le journal Times. Madame Gottesman, titulaire d'un doctorat en éducation, préside le conseil d'administration d'Einstein. Les frais de scolarité s'élevaient auparavant à environ 59 000 dollars par an à Einstein, que US News and World Report classe au 42e rang pour la recherche dans les facultés de médecine du pays et au 61e rang pour les soins primaires. Nous avons d'excellents étudiants en médecine, mais cela ouvrira la porte à de nombreux autres étudiants dont la situation économique est telle qu'ils ne songeraient même pas à aller à l'école de médecine, a déclaré Mme Gottesman au Times. L'une des conditions, ajoute le journal, est qu'Einstein ne change pas de nom. Nous avons ce magnifique nom, a déclaré Mme Gottesman. Nous avons Albert Einstein.
כל ימי אני הולך אלייך מסונבר האבנים פוצעות את כפותי אבל אני איני מרגיש דבר אני חוזר מארץ לא זרועה מושיט ידי ללטוף את שערך הנני כאן אך כמו יונה פצועה אני נופל תמיד מול שערך הנני כאן כמו ציפורים חגות הנני כאן מביט מן הגגות הנני כאן כמו אבן בגדר כמו סלע כמו באר אני האיש אשר תמיד חוזר אני חוזר באלף גלגולים אני נזיר בין מלך וקבצן ובלילות בבקות השואלים אני חולם וארבח בו בזמן אני רואה אותך הרחוקה כמו נסיכה שבויה במגדלים בין סורגים יושבת ומחכה האלוהים האלוהים גדולים הנני כאן מביט מן הגגות הנני כאן כמו אבן בגדר כמו סלע כמו באר אני האיש אשר תמיד חוזר חוזר ואת חיכית האבנים וכמו הבור להלך במדבר זריחות רכות נשקו אותך פנים שקיעות כבדות נשקו אותך צוואר כך ראיתיך יושבת ומצפה ובעינייך אור ועצב רב כך לקחתיך איתי אל אכפת היחפה עם כתר של זהב ציפורים חגות הנה לי כאן מבית מן הגגות הנה לי כאן כמו אבן בגדר כמו סלע כמו באר אני האיש אשר תמיד חוזר חוזר
Scandaleux des joueuses irlandaises tournent le dos pendant l'hymne israélien. L'équipe féminine d'Irlande, de moins de 17 ans, affrontait il y a quelques jours l'équipe d'Israël dans le cadre des préliminaires pour les championnats d'Europe de football. Au moment où l'hymne israélien a été joué, les joueuses irlandaises ont carrément tourné le dos sur la pelouse en signe de protestation contre la guerre à Gaza. Et ce n'est pas la première fois qu'une compétition sportive est utilisée par l'Irlande pour exprimer des positions politiques. Il y a 15 jours, en effet, lors de l'Eurobasket féminin, les joueuses irlandaises avaient refusé carrément de serrer la main de leurs adversaires israéliennes. Les israéliennes avaient largement dominé le match et l'avaient emporté 87 à 57. Ces divers incidents ont fait dire au député israélien Boaz Bismuth « Ce n'est pas pour rien que la couleur de leur maillot est la même » que celle du Hamas. Fin de citation. Alors plus réjouissant, une semaine après les propos également scandaleux du président brésilien Lula, accusant Israël de génocide à Gaza et le comparant carrément à Hitler, les Brésiliens sont descendus dans la rue pour se désolidariser de leur chef d'État. Et des centaines de milliers de personnes ont donc répondu présent à l'appel de l'ancien président Jair Bolsonaro et ont manifesté dans les rues de Sao Paulo. De nombreux drapeaux israéliens parsemaient le cortège et M. Bolsonaro lui-même a brandi le drapeau bleu et blanc. Les médias brésiliens ont rapporté que les ventes de drapeaux israéliens ont explosé dans les magasins sans jeu de mots de Sao Paulo et qu'ils ont été brandis pendant la manifestation en signe de solidarité avec la communauté juive face aux attaques antisémites de Lula. Sur un des drapeaux, un cœur était dessiné avec l'inscription « Pardon ». Et la femme de M. Bolsonaro, Michelle, a pris la parole et a prié pour Israël. Des sondages publiés après les déclarations de Lula ont montré que la majorité des Brésiliens désapprouvent leur chef d'État dans cette attaque contre Israël. Une autre grande manifestation de soutien à Israël s'est par ailleurs déroulée à New York samedi soir. Times Square était en effet noir de monde pour une avdala géante à l'issue d'un Shabbat pour jeunes organisé par le mouvement Lubavitch en présence de survivants du massacre du festival Noah en Israël.
שנפתחים ללא מילה ואם תהיה עייף ואם בעצם תתעטף נשאיר לך בשקט נשאיר לך ברוך ונחכה ונלטף עד שתצטרף ואז נשיר ברון נשיר ברון נשיר ברון הביתה מן הקור הביתה אל האור הלב יער כשתבוא
בעד לדמעות תבחין באותיות לחופש נולד ואם תהיה עייף ואם בעצב תתעטף נשאיר לך בשקט נשאיר לך עד שתצטרף ואז נשיר מרון נשיר מרון נשיר מרון תצטרף ואז נשיר ברון נשיר ברון עד שתצטרף ואז נשיר ברון נשיר ברון עד שתצטרף ואז נשיר ברון נשיר ברון נשיר ברון נשיר ברון
C'était le chanteur Boaz Sharabi avec cette jolie chanson, La Shir Beron, en mémoire de Ron Arad, qui était également otage. Je vous propose à présent un voyage direction le Portugal avec un retour en arrière. En effet, en juin 1940, Aristides de Sousa Mendes, alors consul du Portugal à Bordeaux, désobéit à son pays et sauve plusieurs dizaines de milliers de personnes juives et non-juives en leur délivrant des visas pour le Portugal. Important port maritime et bourg commercial, la ville de Porto fut l'une des villes dans laquelle les Juifs s'installèrent au Portugal. L'histoire de la communauté juive dans cette capitale de la région nord est indissociable de la propre histoire de la présence hébraïque sur le territoire portugais. Dans le Douro, il existe des villages et des villes ayant autrefois abrité d'importantes communautés juives. Pendant vos vacances, consacrez donc 3 jours à la découverte d'un patrimoine riche en mémoire évocatrice d'une communauté établie dans le pays entre le 5e et le 15e siècle. Les Juifs séfarades ont beaucoup apporté sous différentes formes à la culture portugaise pendant cette période et la ville de Porto et la région du Douro, au sein de laquelle la ville de Lamego abrite l'une des plus grandes communautés juives existantes entre les fleuves Douro et Tage, qui n'ont pas échappé à cette influence. Sous la protection de la monarchie, les Juifs, philosophes, humanistes, scientifiques et commerçants ont été influents à divers moments importants de l'histoire portugaise, notamment pour leur contribution financière et scientifique à l'époque des grandes découvertes. Le judaïsme a continué à être pratiqué en secret malgré l'édit d'expulsion des Juifs promulgué par les rois portugais à la suite de l'édit signé en Espagne en 1496. S'il est vrai que quelques Juifs se convertirent à l'époque au catholicisme, devenus les nouveaux chrétiens, et que d'autres quittèrent le pays, bon nombre d'entre eux, au contraire, restèrent et pratiquèrent leur foi, mais en secret. En ces temps-là, subsistent les marques et inscriptions symboliques dans les zones des anciennes juiveries, comme on l'appelle, observées les mezouzot sculptées sur les jambages en pierre des bâtiments, ces parchemins enroulés dans des boîtiers en bois, verre ou métal, constituent un symbole de la foi juive digne de respect, et le nom des rues qui indique la présence d'une communauté juive, telle que la Rua Nova, la rue Nouvelle, la Rua Direita, la rue droite, la Rua da Estrella, la rue de l'Étoile, ou encore la Rua Espinosa, la rue Spinoza. Découvrez le Porto judaïque et parcourez les rues où s'est formée et développée une communauté née, semble-t-il, avant même la fondation du Portugal. Le quartier juif de la ville se trouvait en plein cœur du bourg, situé au XIIe siècle à proximité de la cathédrale, dans les zones aujourd'hui délimitées par les ruines du couvent de Monchique et par la tour Dos Clérigos, par la cathédrale, l'édifice de la douane de Porto et par la place et le tunnel de la zone riveraine, le quartier de la Ribera, où subsistent quelques hôtels juifs au sein de propriétés privées. En une journée, chers auditeurs, vous parviendrez à parcourir tous ces lieux et pénétrer dans quelques-uns des monuments emblématiques de la ville. La première synagogue de Porto se dressait à l'époque dans l'actuelle Rua de Santana et au fur et à mesure que la ville s'est développée, la communauté juive s'est installée en direction du fleuve. Suivez donc ce parcours jusqu'à la place da Ribera et ses rues adjacentes où d'illustres juifs vivaient en ces temps. Les physiciens, les orfèvres, les grands commerçants. Si vous devez reprendre des forces, eh bien détendez-vous sur l'une des agréables terrasses donnant sur le fleuve et admirez le pont Louis Ier, le paysage formé par les dépôts et caves de vin de Porto sur la rive sud du Douro. Et continuez à pied jusqu'à la zone où se trouve le palais de la Bourse et l'ancien marché Mercado Ferreira Borges. Là se trouvait un autre quartier juif de la ville doté au centre d'une synagogue dans l'actuelle rue do Comercio do Porto. Et bon voyage.
Mi esposica está en el baño. Mi esposica está en el baño, vestida de colorado. Échate a la mar, échate a la mar y alcánzalo. Crece un árbol de canela, échate a la mar, échate a la mar y alcánzalo.
El amor es alfinete que a mí me va a pinchar y ahora estoy mirando que no voy a poder salvar. La 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 la.
Asentada en tu ventana, con tus coltuques blancos,
ya viene un aire fuerte que a ti te arrastrará. La 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 la. Qué mar arrastre, qué marón sí, a la orilla de la mar. Que me coma el pez preto para escapar del amor. La 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 la.
Alors, chers auditeurs, le César du pays européen le plus hostile à Israël avant l'Irlande est attribué à, avez-vous deviné, après une longue période pendant laquelle l'Irlande était considérée comme le pays le plus hostile d'Europe à l'égard d'Israël, il semble que la Norvège ait réussi à prendre sa place et à remporter le titre douteux. Israël et la Norvège traversent actuellement la crise diplomatique la plus aiguë de l'histoire de leurs relations. Au centre de la crise entre les deux pays se trouve le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Heide, qui a tenu une série de déclarations très dures contre Israël. Lors de la conférence internationale du Caire, deux semaines après le déclenchement de la guerre à Gaza, Heide a été le seul ministre occidental des Affaires étrangères à condamner Israël et à ne pas appeler à la libération des personnes enlevées, les otages. Après que les audiences du procès contre Israël aient commencé devant la Cour internationale de justice de La Haye, la Norvège a exprimé son soutien au procès. Un membre de l'opposition a demandé au ministre Heide ce qu'il pensait du procès et a déclaré qu'Israël ne commettait peut-être pas de génocide à Gaza, mais qu'il commettait des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Le ministre a également précisé qu'il était bon que le tribunal découvre si un génocide a effectivement eu lieu à Gaza. Même lors des procédures supplémentaires en cours devant la Cour internationale de justice de La Haye concernant la légalité de l'occupation, la Norvège s'est prononcée fermement contre Israël. Et M. Heide s'est vanté du fait que la Norvège ne vend pas d'armes à Israël et a appelé les pays qui exportent des armes vers Israël à cesser de le faire car ils pourraient être directement impliqués dans un potentiel génocide. L'ambassadeur d'Israël en Norvège, M. Avi Nir Feldklein, a été invité par le journal norvégien Dagbladet à répondre aux affirmations. Ce sont des questions que vous devriez poser aux États-Unis s'ils pensent qu'il est acceptable que des discussions internes sur un tiers soient menées, a-t-il révélé publiquement. En décembre dernier, un autre aspect du comportement problématique de la Norvège à l'égard d'Israël a été révélé. En effet, le ministre norvégien des Affaires étrangères a interdit carrément au roi de Norvège, Harald V, d'adresser ses condoléances officielles à l'État d'Israël après le massacre du 7 octobre, ceci, je cite, à la lumière de la nature politique du conflit. Il faut noter ce déséquilibre à la foire du livre du Caire en Égypte. Le ministre norvégien des Affaires étrangères a déclaré lors de la même réunion que ce qui se passe à Gaza est l'enfer sur terre. Après la réunion, ils se sont tous deux tenus devant les caméras lorsque l'héritière de l'épouse du trône a versé des larmes. Et c'est comme ça que ça marche, chers auditeurs. Lorsque le roi de Norvège souhaite exprimer ses condoléances à l'État d'Israël, il lui est interdit de le faire. Mais l'épouse du prince héritier n'a aucun problème à exprimer son empathie envers les Palestiniens de Gaza. Et un haut responsable, un haut représentant du parti norvégien au pouvoir, membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, a même recommandé l'UNRWA comme candidate au prix Nobel de la paix.
11 novembre 1975. Hier, j'étais dans le métro et j'entends deux dames dire « T'as vu encore ces juifs avec leurs histoires à l'ONU ?» Quels emmerdeurs. C'est vrai, nous sommes des emmerdeurs. Ça fait des siècles qu'on emmerde le monde. C'est dans notre nature, que voulez-vous. Abraham, avec son Dieu unique, Moïse avec ses tables de la loi, Jésus avec son autre joue toujours prête à la deuxième baffe, puis Freud, Marx, Einstein, tous ont été des gêneurs, des révolutionnaires, des ennemis de l'ordre. Pourquoi ? Parce qu'aucun ordre, quel que fût le siècle, ne pouvait les satisfaire, puisqu'ils en étaient toujours exclus. remettre en question, voir plus loin, changer le monde pour changer de destin, tel fut le destin de mes ancêtres. C'est pourquoi ils sont haïs par les défenseurs de tous les ordres établis. L'antisémite de droite reproche aux juifs d'avoir fait la révolution bolchévique. C'est vrai, il y en avait beaucoup, en 1917. L'antisémite de gauche reproche aux juifs d'être les propriétaires de Manhattan. C'est vrai, il y a beaucoup de capitalistes juifs. La raison est simple. La religion, la culture, l'idéal révolutionnaire d'un côté, les portefeuilles et les banques de l'autre sont les seules valeurs transportables, les seules patries possibles pour ceux qui n'ont pas de patrie. Et maintenant qu'il en existe une, l'antisémitisme renaît de ses cendres, pardon, de nos cendres, et s'appelle antisionisme. Il s'appliquait aux individus, il s'applique à une nation. Israël est un ghetto, Jérusalem c'est Varsovie. Les nazis qui nous assiègent parlent arabe, et si leur croissant se déguise parfois en faucille, c'est pour mieux piéger les gauches du monde entier. Moi qui suis un juif de gauche, je n'en ai rien à faire d'une certaine gauche qui veut libérer tous les hommes du monde aux dépens de certains d'entre eux, car je suis précisément de ceux-là. D'accord pour la lutte des classes, mais aussi pour le droit à la différence. Si la gauche veut me compter parmi les siens, elle ne peut pas faire l'économie de mon problème. Et mon problème est que depuis les déportations romaines du 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons été partout honnis, bannis, traqués, dénoncés, écrasés, spoliés, brûlés et convertis de force. Pourquoi ? Parce que notre religion, c'est-à-dire notre culture, était dangereuse. Eh oui. Quelques exemples ? Le judaïsme a été le premier à créer le Shabbat, jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de repos hebdomadaire obligatoire. Vous imaginez la joie des pharaons, toujours en retard d'une pyramide. Le judaïsme interdit l'esclavage. Vous imaginez la sympathie des Romains, les plus importants grossistes de main-d'œuvre gratuite de l'Antiquité. Il est dit dans la Bible, « La terre n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu ». De cette phrase découle une loi, celle de la remise en question automatique de la propriété foncière tous les 49 ans. Vous voyez l'effet d'une loi pareille sur les papes du Moyen-Âge et les bâtisseurs d'empire de la Renaissance. Il ne fallait pas que les peuples sachent. On commença par interdire la Bible. Puis ce furent les médisances. Des murs de calomnie qui devinrent murs de pierre et qu'on appela ghetto. Ensuite ce fut l'Inquisition, les bûchers et plus tard les étoiles jaunes. Auschwitz n'est qu'un exemple industriel de génocide, mais il y a eu des génocides artisanaux par milliers. J'en aurai pour 3 jours, rien qu'à nommer tous les pogroms d'Espagne, de Russie, de Pologne et d'Afrique du Nord. À force de fuir, de bouger, le juif est allé partout. On extrapole et voilà, il n'est de nulle part. Nous sommes parmi les peuples comme l'enfant à l'assistance publique. Je ne veux plus être adopté. Je ne veux plus que ma vie dépende de l'humeur de mes propriétaires. Je ne veux plus être un citoyen locataire. J'en ai assez de frapper aux portes de l'histoire et d'attendre qu'on me dise « entrez ». Je rentre et je gueule. Je suis chez moi sur terre. Et sur terre, j'ai ma terre. Elle m'a été promise, elle sera maintenue. Qu'est-ce que le sionisme ? Ça se réduit à une simple phrase. L'an prochain à Jérusalem. Non, ça n'est pas un slogan du club méditerranéen. C'est écrit dans la Bible, le livre le plus vendu et le plus mal lu du monde. Et cette prière est devenue un cri qui a plus de 2000 ans. Et le père de Christophe Colomb, de Kafka, de Proust, de Chagall, de Marx, d'Einstein et même de Monsieur Kissinger l'ont répété, cette phrase, ce cri, au moins une fois par an, le jour de Pâques. Alors, le sionisme c'est du racisme ? Faites-moi rire. Est-ce que douce France, cher pays de mon enfance, est un hymne raciste ? Le sionisme, c'est le nom d'un combat de libération. Dans le monde, chacun a ses juifs. Les Français ont les leurs. Ce sont les Bretons, les Occitans, les Corses, les travailleurs immigrés. Les Italiens ont les Siciliens. Les Yankees ont leurs Noirs. Les Espagnols, leurs Basques. Nous, nous sommes les juifs de tous. À ceux qui me disent, et les Palestiniens ? Je réponds, je suis un Palestinien d'il y a 2000 ans. Je suis l'opprimé le plus vieux du monde. Je discuterai avec eux, mais je ne leur céderai pas ma place. Il y a là-bas de la place pour 2 peuples et 2 nations. Les frontières sont à déterminer ensemble. Mais l'existence d'un pays ne peut en aucun cas exclure l'existence de l'autre. Et les options politiques d'un gouvernement n'ont jamais remis en cause l'existence d'une nation, quelle qu'elle soit. Alors pourquoi Israël ? Quand Israël sera hors de danger, je choisirai parmi les juifs et mes voisins arabes ceux qui me sont frères par les idées. Aujourd'hui, je me dois d'être solidaire avec tous les miens, même ceux que je déteste, au nom de cet ennemi insurmontable, le racisme. Descartes avait tort. Je pense donc je suis, ça ne veut rien dire. Nous, ça fait 5000 ans qu'on pense, et nous n'existons toujours pas. Je me défends, donc je suis.
Herbert Pagani avec ce magnifique texte, toujours d'actualité, plaidoyer pour ma terre. L'invasion de l'Ukraine par la Russie déclenche une renaissance juive, où ça? Eh bien en Arménie. C'est juste après le coucher du soleil, par une froide soirée de février, que Mamayan commence à faire le plein de clients. Ce petit café chaleureux attire en effet les passants avec son traditionnel ragoût de viande arménien, son dolma, feuille de vigne farcie, et sa grappa eau-de-vie maison. À l'intérieur, les mélodies d'Edith Piaf jouent doucement, fond sonore, tandis qu'un tableau près du bar répertorie les activités de la semaine à venir, à savoir samedi, une réunion du club anglophone, dimanche, une conférence sur le féminisme, mercredi, projection du film Golda, et vendredi, Kabbalat Shabbat avec challah cuit au four et vin de grenade. Et tout cela est supervisé par Julia Kislev, une dame juive originaire de Crimée qui a immigré en Israël en 1992 et s'est installée dans le sud de Tel Aviv. Elle a appris couramment l'hébreu. En 2016, Madame Kislev a rejoint son mari, acteur arménien à Erevan, la capitale, et 4 ans plus tard, elle a ouvert donc ce café Mamayan, qui est devenu depuis le lieu de rassemblement non officiel des nouveaux juifs d'Arménie, ceux déplacés par la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui dure depuis 2 ans. Ils trouvent leur abri ici, a déclaré Madame Kislev, âgée de 55 ans, citoyenne israélienne, bénéficiant du statut de résident local. Au cours des 2 années qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, cette ancienne république soviétique enclavée du Caucase a connu un afflux surprise de juifs, pour la plupart de jeunes russes libéraux opposés à la guerre, mais aussi des Ukrainiens en quête de refuge. Ensemble, leur arrivée a décuplé la population juive totale d'Arménie, passant de moins d'une centaine à bien plus de 1000 aujourd'hui. C'est un gros problème pour un pays ancien qui n'a jamais eu beaucoup de juifs, même si l'Arménie, la première nation chrétienne du monde, possède bien un cimetière juif médiéval avec 64 pierres tombales en hébreu et en araméen, datant de 1266. L'Arménie est devenue une république soviétique en 1920. Et après la Seconde Guerre mondiale, des Juifs venus d'Ukraine, de Biélorussie, de Moldavie et d'Azerbaïdjan se sont installés ici. Mais après l'effondrement de l'URSS elle-même en 1991, la quasi-totalité de la communauté juive, soit 15 000 familles, a émigré en masse vers Israël, ne laissant qu'une poignée de fidèles vieillissants pour empêcher la communauté en déclin de disparaître complètement. Sans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il resterait peut-être 50 à 100 juifs ici. C'est ce qu'a déclaré le rabbin Gershon Meir Burstein, le chef spirituel du centre religieux juif Mordechai Navi d'Arménie. Nous pensions que ce serait la fin, mais ensuite cet afflux de juifs est venu de Russie, principalement des jeunes assoiffés de Yiddishkeit, de culture juive. Selon l'organisateur communautaire Nathanael Troubkin, quelques 120 000 citoyens russes ont fui vers ce territoire de 3 millions d'habitants de la taille du Maryland aux États-Unis dans les semaines et les mois qui ont suivi l'attaque non provoquée du président Vladimir Poutine contre l'Ukraine. Certains craignaient la conscription, d'autres s'inquiétaient des sanctions et du gel des comptes bancaires. Leur arrivée a contribué à un boom local de la construction qui a contribué à augmenter le PIB de l'Arménie de 12% en 2022 et de 8% supplémentaire l'année dernière. Pourtant, de nombreux Russes sont depuis partis vers des pays tiers ou sont carrément rentrés chez eux. Selon M. Troubkin, parmi les Juifs russes qui restent, environ 60% sont des moscovites comme lui. Le reste vient principalement de Saint-Pétersbourg, Novossibirsk, Ekaterinbourg et Nijni Novgorod. Il y a peut-être ici plus de 1000 juifs russes, mais pour diverses raisons, ils n'ont pas partagé leur identité, a déclaré M. Troubkin, qui s'occupe de la rédaction et du marketing sur les réseaux sociaux pour diverses organisations juives. Il est intéressant de noter que la plupart de ces personnes appartiennent à la même classe sociale, parfois même au même quartier de Moscou. De même, sur les quelques 5000 réfugiés ukrainiens restés en Arménie, environ 1500 sont des Juifs. Sie sollen bei Eis mit und werden das Bohnen. Voilà, c'est avec cette jolie chanson de mariage que se clôture cette émission Découverte. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver le dimanche en rediffusion de 18 à 19h ou alors quand vous le désirez en podcast. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine à l'écoute des programmes de Radio Judaïka. Bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre. Je vous retrouverai la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Shabbat Shalom, à Git Shabbat.